se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein ?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h03, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et aujourd'hui, autour de la table, vous retrouvez Rémi Barré, Thierry Moreau, Loumire Lapré et Fred Hermel. Dans un instant, on va parler de la fécondité mondiale. En chute libre, d'ici 2100, la plupart des pays verront leur population diminuer. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? On en débat avec vous au 32-16. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On se demandera si la sécurité des élèves vous inquiète après justement ces messages envoyés à des lycéens avec une vidéo de décapitation. Espérez-vous encore une baisse des prix? Voilà, Bruno Le Maire et certains patrons de supermarchés nous avaient dit que l'inflation était derrière nous, mais bizarrement, non, en fait, non, pas du tout. Et puis, êtes-vous adepte de la procrastination? Remettre au lendemain ce que on peut faire le jour même, ça, ce sera dans le zapping. À 14h, la lutte contre la fraude fiscale et sociale qui atteint des records en 2023. Est-ce qu'il faut, vous seriez prêt à aider l'État en dénonçant des voisins lorsqu'ils cachent par exemple une piscine ou une véranda? L'État a plein d'économies à faire. Est-ce que vous seriez prêt à dénoncer votre voisin? On en parle avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC. RMC Conso, 14h30, on vous dira comment bien choisir votre saucisson. On en trouve de partout sur les étals des marchés. Mais comment faire la différence entre l'art artisanale et l'industriel, et puis on vous fait gagner des places pour ce magnifique match Rémi entre le PSG et le Barça.
Ouais, ce sera le mercredi 10 avril prochain, quart de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes, et nous vous proposons pour l'occasion de vivre l'expérience RMC. Vous venez à RMC dans nos studios pour les visiter, pour rencontrer nos équipes. Ensuite, on vous emmène au Parc des Princes pour assister à PSG FC Barcelone, et vous revenez à RMC pour assister au débrief du match dans l'After Foot. C'est ça l'expérience RMC. Et dès que vous entendez cette alerte, alerte qui peut tomber à tout moment, vous aurez alors 5 minutes top chrono pour vous inscrire en envoyant PSG par SMS au 7-32-16. PSG par SMS au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va tout de suite s'intéresser à la baisse du jour dans Estelle Midi, et c'est celle du taux de fécondité dans le monde en 2050. Le taux moyen devrait se situer autour des 1,8 enfants par femme, en dessous du seuil de renouvellement de la population. Quasiment tous les pays sont touchés, Rémi, mais certains plus que d'autres.
Oui, en 2100, 97% des pays du monde seront concernés d'après cette étude. Et seuls 6 pays parviendront à atteindre le taux de 2,1 enfants par femme, taux nécessaire pour assurer le renouvellement des générations. Ces pays, ce sont la Somalie, le Niger, le Tchad, le Tadjikistan, les îles Tonga et les îles Samoa. D'après les projections de l'étude, même si la France possède l'un des taux de natalité les plus élevés d'Europe, le pays ne parviendra pas à dépasser ce taux de 2,1 enfants par femme. Dans le monde, d'ici 2100, la moitié des enfants naîtront en Afrique subsaharienne. L'étude précise toutefois que rien n'est figé. Tout dépend en fait des politiques d'encadrement des naissances dans chaque pays, mais aussi des niveaux d'éducation des femmes, de la contraception ou encore des politiques de soutien à la natalité. Et l'étude conclut, si les grandes tendances se confirment, l'équilibre démographique sera chamboulé, tout comme l'économie mondiale et forcément les flux migratoires.
Bien sûr. Alors, la baisse de la fécondité mondiale, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, Thierry Moreau?
C'est factuel. Donc je pense que de toute façon, on sera obligé de faire avec, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle.
Alors, on peut essayer de lutter contre.
Mais d'important. Alors, moi, je crois que les politiques natalistes n'ont jamais donné des résultats absolument formidables dans les pays qui ont expérimenté là. Le fait de faire des enfants, ça reste une liberté individuelle, enfin individuelle de couple, enfin en tout cas, parce qu'un enfant, ça se fait à deux. On voit aussi, quand on liste un peu toutes les raisons pour lesquelles les gens font moins d'enfants, il y a plein de raisons très très objectives, hein. Le fait de pas avoir d'argent déjà, d'être chômage, d'avoir un avenir sombre, d'être inquiet pour le climat, pour le climat. Les politiques natalistes qui sont de plus en plus rognées globalement dans les pays, et qui donc, je pense, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas efficaces. Il y a un individualisme aussi qui est très présent aussi dans nos sociétés actuelles. La vie professionnelle dans laquelle on s'épanouit, du coup on pousse un peu le fait de faire un enfant, puis au bout, au final, on n'en fait pas forcément. Tout ça, je crois que... Et puis, une baisse de la pression sociale aussi. Faut pas oublier que dans nos sociétés, on avait une pression sociale absolue pour être marié, ensuite fiancé, marié, faire des enfants. Il y avait une espèce de... Ça, ça se perd aussi. Voilà. Après, la conséquence...
Moi,
je me rappelle, il y a 20 ou 30 ans, ou même quand j'étais à l'école, on se disait, la population va grandir et on pourra plus nourrir, on pourra plus se loger parce que ça va exploser.
Oui. Aujourd'hui, on a vu que ça allait.
Les démographes expliquent qu'au contraire, on va vers un système inverse. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y aura moins de gens à nourrir.
Ah, super. Mais la société ou la vie, c'est pas juste se nourrir. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça. Et moi, personnellement, de voir une société de vieux, de voir qu'en fait, y aura plus d'enfants. Les enfants, c'est la vie.
Mais ce sera cyclique.
Et qui est-ce qui innove? Qui est-ce qui crée? Ce sont les enfants, ce sont les jeunes. Une société où il y a plus de jeunes, c'est une société qui meurt.
D'abord, il y a des sociétés qui détruit aussi, c'est l'homme.
D'abord, il y a des pays et des sociétés et des endroits du globe où la natalité est importante, où il y a des viviers de jeunes personnes qui seront
là. C'est les pays les plus soumis au dérèglement climatique, donc c'est formidable. C'est quand même un problème.
On
a créé les propres conditions.
On sera soumis, qu'on le veuille ou non, à ces migrations climatiques. Excusez-moi, les pays les plus en problème aujourd'hui, c'est le Japon. La France est plutôt pas mal lotie.
On est en dessous du seuil de renouvellement.
C'est pire.
Et même si à l'heure actuelle, ça peut paraître de la politique du tout, mais pour abonder dans le sens de Thierry, si nos sociétés deviennent... On parle de l'horizon 2100, donc c'est quand même... Bon, c'est demain.
On sera tous morts.
Mais si nos sociétés deviennent trop vieilles, on aura besoin de jeunes. Et on fera venir des jeunes de pays étrangers.
Ils viendront sans doute, quoi qu'il arrive.
Il y aura une immigration choisie.
Mais alors, si c'est le modèle de société que vous voulez, c'est-à-dire qu'on fait plus d'enfants et on fait venir des enfants d'ailleurs.
C'est pas un modèle de société qu'on pourra choisir.
C'est génial.
C'est factuel.
Mais moi, je trouve ça grave, en fait, de pas se dire peut-être qu'il y a des politiques qui pourraient changer ça.
J'adore la Bretagne. Toi aussi. J'adore la Bretagne. J'ai pas envie que le rivage breton soit envahi par les eaux. Mais c'est ce qui va arriver.
Mais
c'est pas le modèle de société que je rêve.
Ne faisons rien.
Mais alors, c'est intéressant parce qu'on revient à la conversation qu'on avait en début. Les gens nous disent, les écologistes, vous êtes catastrophiques, vous voulez détruire. Voilà les choses auxquelles on doit s'attendre parce que nous n'avons pas agi.
Avant.
Au moment où il fallait agir. Ça fait des dizaines d'années que les écolos tirent la sonnette d'alarme. Maintenant, il faut admettre qu'il y a des choses qui vont changer. Mais il ne faut pas être catastrophiste non plus. Moi, je fais partie des optimistes qui disent que, et ce n'est pas juste moi, Loumière Lapré, qui le dit, c'est les scientifiques qui disent qu'il y a encore de la marge pour s'adapter. C'est pour ça qu'il faut le faire maintenant. Et c'est pas juste pour saouler tout le monde parce qu'on a des espèces de tocades de gens qui veulent absolument faire de l'écologie punitive. L'écologie punitive, c'est quand il y aura plus d'eau dans ton robinet. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens en France qui ne veulent plus faire d'enfants. Maintenant, la question, si c'est une des raisons.
La principale raison, c'est le pouvoir d'achat. Donc
une des raisons parce que ça participe à l'idée qu'il y aura un avenir sombre. Je suis pas tout à fait d'accord avec Thierry dans le sens où je pense que des politiques natalistes ça peut aider. Si jamais moi par exemple j'ai 31 ans, je suis en train de me poser la question d'avoir des enfants, etc. Je suis indépendante. C'est un vrai frein pour avoir des enfants.
Oui, c'est pour ça que je parle du pouvoir d'achat.
Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où, et c'est là que je pense que on peut créer des sociétés qui rendent le fait d'avoir des enfants plus facile. Mais ça, c'est au niveau de la France. Tu sais, quand tu as envoyé la question ce matin, quand j'ai reçu les sujets, je me suis dit, en fait, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas de débat dépolitisé et dépassionné dans ce pays sur concrètement qu'est-ce que ça va vouloir dire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui appuient sur ce sentiment de submersion, de menace, de « Oh mon Dieu, notre société va disparaître » pour faire leur miel politique. Il y a des gens qui nous disent « Ah de toute manière, du coup, il n'y aura plus personne pour financer la Sécu, donc il faut qu'on fasse des économies, etc. » En réalité, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on mette autour d'une table des démographes, des économistes, des représentants de la société civile et qu'on puisse se dire voilà les chiffres, voilà ce qu'on sait qui va se passer, et voilà ce que ça va vouloir dire pour nous. Et aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir ce débat parce qu'on manque de faits, de chiffres.
Alors, ce qui est factuel, c'est que moins il y aura d'enfants, je veux dire, plus ta retraite, personne ne te la paiera, ça c'est sûr.
Mais et dans ça veut dire
moins d'enfants, ça veut dire un temps de travail allongé, c'est-à-dire que tu devras travailler plus longtemps pour avoir une retraite
dans
par
le
exemple,
système actuel. Non, mais, dans le système, on peut imaginer d'autres sources.
Le système actuel, il s'appelle par répartition, il n'est pas si mal.
Pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut
une conversation
sur le système actuel. Et moi, je suis désolée, encore une fois, je ne peux pas me réjouir. Alors, ok, il y a tout ce qui est la nourriture, l'alimentation, etc. Mais moi, je ne peux pas, j'en arrive pas à me réjouir d'une société sans enfants. Je suis désolée. Et Rémi parlait du Japon. Le Japon se meurt parce que justement, il n'y a plus d'enfants. C'est une catastrophe.
Je crois que ça ne résout
personne. C'est une catastrophe.
Hein.
Les gens sont obligés. Au Japon, tu vois des gens qui te tiennent la porte, ils ont 85 ans. Mais moi, si c'est la société que vous voulez, eh ben, gardez-la. Moi, en tout cas.
Non, mais personne ne dit ça.
Mais
non,
mais. Mais je suis d'accord avec toi.
Non, mais vous trouvez ça formidable.
Mais non, mais personne ne trouve ça formidable.
Non, mais Estelle, comment changer les choses?
Ayant des politiques natalistes qui soient peut-être des politiques en aidant les femmes, peut-être, en tout cas je te parle dans les pays développés, en Europe par exemple, en aidant les femmes comme ça se fait notamment, même s'ils n'ont pas des taux meilleurs que nous, mais en Europe du Nord, en faisant que effectivement quand t'es une femme par exemple, tu puisses avoir des enfants et après continuer ta carrière, etc., que ce soit mieux fait, que tu puisses avoir des gardes d'enfants sans problème, que ça te coûte pas aussi cher d'avoir un enfant. Et peut-être que si on avait ces politiques là alors que maintenant quand t'as une politique nataliste, on traite de facho, et ben peut-être que si on avait ces politiques-là, et ben peut-être que les femmes feraient plus d'enfants. Mais voilà, c'est mon avis. Fred Hermel.
En fait, tu as dit tout ce que j'avais envie de dire.
Ah pardon, excuse-moi.
Non, mais je suis ravi de pas être, je vais pas me sentir tout seul sur ce plateau. Alors, je vais répondre à la question. Baisse de natalité, bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle pour les pays pauvres, mauvaise nouvelle pour les pays riches. Parce que c'est ça le truc. Voilà, c'est les pays où on a du mal à nourrir les gens, où il y a beaucoup d'enfants, et c'est les pays où on a les moyens de nourrir les gens, où il n'y a pas assez d'enfants.
Non, 97% des pays du monde seront concernés en 2100.
Oui, alors, mais
il n'y a pas 97% de pays développés.
Regarde la situation aujourd'hui. Pays,
mais regarde la situation. Mais il n'y en a que 6.
Oui, bien sûr.
Non, mais la situation aujourd'hui, excuse-moi.
Tu as raison.
Tu regardes aujourd'hui les taux de natalité. En Afrique et en Europe, le problème, c'est ici. Enfin, excuse-moi.
Non, il y a un certain nombre de pays comme la Chine, par exemple, et un certain nombre de pays africains où la natalité.
Attends, mais la Chine, pourquoi?
Parce qu'ils sont en chute libre.
Au Maghreb,
excuse-moi, mais la Chine, il y a la politique de l'enfant unique, il y avait trop d'enfants. Ça a été une dictature. Ils ont.
Au Maghreb, la natalité est en chute libre.
Pas tout en même temps.
Mais non, mais je peux finir ma phrase quand même.
Vas-y.
Je viens de commencer.
Vas-y, Fred.
Excuse-moi. Ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'il y a eu une imposition dictatoriale de réduction des naissances. Mmh. Alors, excuse-moi, on n'en est pas là, nous. Hein, et c'est pas le... Nous, on a un vrai problème de natalité. Mmh. Voilà. Et on a les moyens de nourrir les gens, mais on ne fait pas d'enfants. Des pays qui n'ont pas les moyens ont plein d'enfants.
Six.
Aujourd'hui.
Bon, ok.
Non, aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, enfin, mais Rémi, attends, mais me fais pas passer pour un idiot.
Mais eux-mêmes sont en train de faire.
Je peux terminer. Vas-y, termine.
Je veux dire, je suis d'accord avec Estelle, c'est un drame de ne plus faire d'enfants. C'est un drame. Parce que la société. Fait tout pour ne pas faire d'enfants. Quand Macron a parlé de réarmement démographique, il s'est fait défendre par tout le monde.
Oui, comme si la formule était pas
oui, mais enfin, mais comme
pardon,
si
hein.
Mais, comme, mais même s'il avait utilisé politique nataliste, on l'aurait accusé de dire de vouloir utiliser le corps des femmes pour faire des enfants. C'est ça le problème.
Mais nous, on lui demande.
C'est qu'on ne met plus en valeur
garanties.
Dans notre société les enfants. Parce qu'il y a aussi une volonté de dire, c'est pas grave, on va faire venir des gens de l'extérieur.
Mais qui dit ça? Mais Fred, qui dit ça? Cite-moi des gens qui disent ça.
Pas du tout. On dit que ça va arriver.
Mais donc, mais qui dit c'est souhaitable?
On dit que ça va
personne
arriver à cause des dérèglements climatiques, qu'il y aura des migrations.
Pas que ça. Il y aura une promotion de l'immigration.
Mais qui fait
des postes
ça
qui ne seront pas pourvus parce qu'on n'aura pas assez d'enfants.
Tu dis qui
Qui
dit ça?
Mais tous les économistes.
Tu auras forcément une immigration choisie, mais c'est une bonne ou une mauvaise chose.
On a l'impression qu'il y a un espèce de complot mondial qui veut remplacer les enfants français par des enfants immigrés.
C'est pas ce qu'il te dit. En fait, ce qu'il te dit, ce qui aujourd'hui est assez paradoxal, c'est qu'effectivement, dans les sociétés où tu as globalement plutôt à manger, etc., on ne fait plus d'enfants.
Oui, c'est la transition démographique.
Dans les pays aujourd'hui qui sont les plus touchés par le dérèglement climatique. Là, tu as beaucoup d'enfants. Donc c'est paradoxal.
Mais c'est paradoxal parce que pourquoi aussi? Parce que il s'avère que en Europe, on est bien lotis et qu'on va être les pays parmi les moins touchés par le dérèglement climatique. Oui. Et que les pays les plus touchés sont dans les suds et que dans les suds, c'est là où les gens sont les plus pauvres. Mais c'est là que Rémi a raison. En fait, c'est vraiment une phase. La transition démographique, il y a 200 ans, on n'en était pas au même stade en France. Et puis, dans 100 ans, enfin, en l'occurrence, là, dans 80, la totalité des pays mondiaux auront terminé leur transition démographique. Donc, c'est important de l'avoir en tête.
C'est que tu sais très bien que l'avancée des droits des femmes produit naturellement, et c'est bien
sûr,
moins d'enfants.
Bien sûr, parce que ça crée un accès à la contraception.
Mais c'était normal d'avoir des familles de 10 enfants.
Bien sûr.
Quasiment plus personne n'avait eu.
Et d'ailleurs, en 2100,
aux États-Unis, le taux de fécondité en 1950, c'était 5 enfants par femme.
Bien sûr, mais là aussi, largement tiré par la pauvreté. Parce qu'en effet, plus t'es riche, ça veut dire que plus t'es éduqué, plus tu fais des études longues et t'as une carrière qui rend difficile le fait d'avoir des enfants et plus tu peux choisir une contraception.
Ben exactement.
Mais c'est alors, sûr. Justement, on a Gwen en ligne qui nous appelle de Toulouse et qui est éducatrice sportive. Bonjour Gwen.
Bonjour Estelle.
Bonjour.
Et Gwen, alors vous avez 45 ans et vous avez fait le choix, Gwen, de ne pas avoir d'enfants.
En effet. J'ai fait ce choix assez tôt, finalement, déjà par une.
C'est ça, c'est un choix, c'est pas parce que vous avez trouvé personne ou. Voilà, c'est un vrai choix.
J'ai mon compagnon, alors on avait deux éducations différentes avec mon compagnon. C'est vrai que moi, en venant du sport aussi, j'ai ma carrière sportive, mon métier dans le sport, qui a peut-être aussi retardé le fait que j'ai des enfants. Mais j'ai une famille qui m'a laissé le choix, déjà. Mm-hmm. Une maman et une grand-mère même qui nous ont, bon, moi j'ai deux sœurs, hein, nous sommes trois, qui nous ont toujours expliqué que notre vie de femme n'était pas exclusivement attachée au fait d'être maman et qu'on pouvait être des femmes accomplies sans être mère et que ça demandait des sacrifices.
Elles vous ont pas mis la pression, quoi.
Voilà, exactement. On n'a pas eu de pression familiale. Alors que mon compagnon, lui, venant d'une famille espagnole catholique, lui, par contre, il n'avait quasiment pas le choix. Voilà. Finalement, il s'est rallié un petit peu à mon choix de vie à moi.
Mais Gwen, c'est une question indiscrète que je vais vous poser, mais pourquoi ce choix de ne pas avoir d'enfant?
Écoutez, parce que je vois que ma vie était bien. En fait, j'ai une belle vie. J'ai une vie où je peux faire des choix de budget, par exemple, pour mon travail. Mm-hmm. Je n'ai pas de problème financier. Et c'est vrai que le fait de m'assumer déjà moi toute seule, je trouve déjà que c'est bien, c'est extraordinaire.
C'est pas tous les jours facile.
Voilà. Donc je me rends heureuse, heureux après d'autres, des enfants assumés. C'est quand même lourd, faut le dire. Donc, ce choix. Ouais, pourquoi ce choix?
Et manifestement, vous êtes très très heureuse comme ça. Jamais de regrets, Gwen?
Très bien et pas de regrets. Voilà, c'est surtout ce que j'aimerais dire en fait. C'est que,
bien sûr.
Il faut le dire. Alors, il y en a qui le disent de plus en plus qu'elles n'ont pas de regrets d'avoir des enfants, mais ça se dit quand même de plus en plus que c'est difficile d'avoir des enfants, qu'il faut assumer, financièrement.
Ah bah, c'est pas facile tous les jours, ça, on va pas vous mentir.
Tous les jours, voilà. Cette parole-là se libère. Mais celle de dire, j'ai pas d'enfants et vraiment j'assume. Là, vous voyez, avec mon compagnon, on voyage énormément. On bouge du jour au lendemain, même pour mon travail. Moi, je peux aller à droite, je peux aller à gauche.
Oui.
Je peux ne pas
travailler. Avec deux enfants, ça se fait aussi.
Ça se fait, mais peut-être.
Mais c'est un choix.
Plus de pression.
Vous avez entièrement raison.
Mais le débat est très intéressant, je trouve. Le débat que vous avez sur le plateau, le débat qu'on peut avoir dans la société, il est passionnant.
Exactement.
Et il faut qu'on l'ait. Dans tout ce que j'ai entendu, il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est vrai qu'une politique nataliste, oui, d'accord, mais ça coûte énormément d'argent.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, on est en train de dire que, attention,
mais c'est primordial.
On est en train d'être sous l'eau parce que les dépenses sont trop énormes, il n'y a pas assez de rentrée d'argent. Attention, une politique nataliste, ça coûte de l'argent. Mais
ouais, mais alors, Gwen, avoir une société de vieux, ça coûte encore plus cher. Parce que. A priori, vous voyez, tout ce qui est santé, tout ce qui est retraite, c'est plutôt les personnes âgées. Et donc, en fait, si vous n'avez pas de jeunes, vous n'avez personne pour payer.
Ah, puis on est plus productif quand on est vieux.
Parce que, encore une fois, le système, c'est comme ça. Moi,
exactement.
C'est vrai que je transpose ma qualité de vie personnelle à ce que serait la qualité d'une société avec moins d'enfants.
Mais je comprends. Et en tout cas, voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Gwen, pour nous expliquer votre choix. Et vous avez l'air très, très heureuse comme ça. Gwen, on a des messages également sur l'appli RMC, Rémi.
Oui, notamment ce message de Nicolas qui nous dit « La baisse de la natalité dans le monde, moi, personnellement, je pense que l'on peut s'en réjouir. 8 milliards d'habitants sur cette planète, ce n'est pas possible. Je peux comprendre qu'il y ait des soucis dans les pays occidentaux, puisqu'on a une forte baisse de la natalité. Mais malgré tout, il faut penser avant tout global à la planète et pas seulement à nous. »
Alors, Gwen le disait il y a un instant, le débat est passionnant et ça tombe bien parce qu'on a un invité passionnant, c'est Gérard François Dumont qui a déjà été avec nous pour parler de ce sujet. Il est démographe et professeur à la Sorbonne, président de la revue Population et Avenir. Bonjour Gérard François Dumont.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a vu ces chiffres assez alarmants d'ailleurs sur la baisse de la fécondité dans le monde. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Bien, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la transition démographique avance dans les pays qui sont les moins développés de la planète, puisqu'en fait, la baisse de la natalité, ça veut dire qu'il y a des progrès significatifs dans la baisse de la mortalité infantile, dans la baisse de la mortalité des enfants et des adolescents, et dans la baisse de la mortalité maternelle, c'est-à-dire des femmes en couche ou par suite de couche. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs le parcours qu'a suivi l'Occident, mais il y a plusieurs décennies. Et c'est en même temps une mauvaise nouvelle dans les pays où on a un vieillissement de la population qui va se traduire par des possibilités de création de richesses qui sera forcément moindre et avec des difficultés de solidarité entre les générations. Je viens d'écouter votre auditrice qui ne souhaite pas d'enfants, ce qui est tout à fait son droit. Je pense quand même qu'elle profite des enfants des autres, puisque tous les services qu'elle demande à la société, c'est bien d'autres personnes qui lui rendent, et ce sont les enfants des autres, inévitablement. Donc en fait, si vous voulez, pour simplifier, dans la situation actuelle, nous avons trois types de pays. Il y a des pays dont la population diminue déjà, donc c'est la Chine, c'est le Japon, c'est la Corée, en Europe c'est la Roumanie, la Bulgarie par exemple. Vous avez des pays qui continuent d'avoir une croissance démographique mais par effet de vitesse acquise, je pense notamment à l'Inde, dont la croissance n'est pas due à une fécondité très élevée, puisque la fécondité moyenne en Inde maintenant, elle est abaissée au niveau du seuil de remplacement. Et puis, nous avons des pays essentiellement, l'Afrique et puis quelques pays d'Asie comme l'Afghanistan, où malheureusement, les conditions de mortalité sont encore terribles. Donc, la natalité n'a pas encore baissé suffisamment pour s'adapter à une mortalité abaissée.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Gérard-François Dumont, pour inverser la tendance et faire que les pays, notamment les plus développés, continuent de faire des enfants ?
Alors, tout simplement, on oublie de considérer que toutes les politiques ont des effets, que ce soit la politique sociale, la politique économique et aussi la politique familiale. En revanche, je suis en désaccord total avec le besoin d'une politique nataliste, parce qu'une politique nataliste, ça veut dire simplement qu'on encourage les gens à avoir un enfant. Ce qu'il faut, c'est une politique familiale, c'est-à-dire une politique qui permette d'accompagner les personnes pendant toute la période d'éducation, et cette période, elle est longue. Or, toute l'histoire montre qu'effectivement, les politiques familiales, elles ont des effets. Et nous le savons tout particulièrement pour la France, puisque la France a conservé effectivement une fécondité relativement élevée en Europe, tant qu'elle a eu une politique familiale significative. À partir du moment où, dès les années 2010, on a décidé de brader la politique familiale, automatiquement, moi j'avais annoncé dès 2014 que la fécondité avait baissé, et elle a baissé. Et lorsque vous regardez au fil des décennies l'évolution de la fécondité en France, vous voyez qu'il y a des hausses et des baisses selon les années. Et à chaque fois, c'est la suite de mesures positives ou de mesures négatives de politique familiale. Donc clairement, le problème, il est quand même là, sachant que une femme ou un couple qui souhaite un enfant, il a toujours trois problèmes à résoudre. Le premier problème, c'est est-ce que ça va pas abaisser trop mon pouvoir d'achat ? Donc ça suppose évidemment des allocations familiales, etc. Deuxième problème, est-ce que je vais avoir un logement assez grand pour cet enfant que je souhaite ? Or, vous savez ce qu'il en est.
Ce qui revient au même que le pouvoir d'achat, d'ailleurs.
Voilà, la politique malthusienne du logement conduit aujourd'hui à une diminution du nombre de constructions de logements absolument phénoménale. Et troisièmement, est-ce que je vais pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale ? Or, en l'espèce, compte tenu de la dégradation des ressources données aux communes, notamment, eh bien, on a beaucoup moins construit de crèches que ce qui avait été prévu.
Exactement.
Et donc, on est effectivement dans cette situation d'une dégradation de la possibilité de concilier les deux. Donc, vous additionnez ces trois éléments. Et donc, il était inévitable que la fécondité baisse en France. Et du coup, les Français ont perdu confiance dans leur politique familiale.
Complètement.
Donc, il faut retrouver, effectivement...
Une certaine confiance.
Confiance dans la politique.
Ça, c'est pas gagné.
Après, pour tempérer le débat...
Si ça peut être, si vous voulez, moi, je pense que la confiance, on peut la retrouver rapidement. Mais ça suppose une volonté politique de remettre en place des mesures qui avaient très bien marché. Elles avaient tellement bien marché que le monde entier venait voir comment la France en sortait pour avoir une aussi bonne...
Après, pour tempérer le débat, on peut quand même juste dire que l'ONU retient trois scénarios. Un scénario de baisse, on est à 7,9 milliards aujourd'hui, 7,8 milliards. Un scénario à 7,3 milliards, un scénario à 10,8 milliards et un scénario à 15 milliards. Et ils n'ont pas choisi de scénario. Il peut y avoir ces trois scénarios-là. Donc...
Et ça posera d'autres questions si on est 15 milliards sur la planète Terre. Et surtout avec notre niveau de vie à nous.
Merci beaucoup, en tout cas, Gérard François Dumont, d'avoir été notre invité sur ce débat passionnant et qui déchaîne les passions. Rémi, on a le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Oui, la baisse de la natalité, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Enfin, une bonne nouvelle, oui. Alors, et pas d'accord. Pour je vois mal parce que j'ai juste, alors c'est pas 59%, pardon, j'avais une grosse prise juste devant mon écran. 59% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux estiment que c'est pas une bonne nouvelle, quoi.
Et je ne reste pas au plaisir de vous lire ce message de Maëva qui nous appelait de Dune dans le Tarn-et-Garonne. On n'a pas eu le temps de la prendre. Maëva, elle est sans profession, elle a un enfant de 4 mois. Elle dit je ne pense pas en faire plus professionnellement. J'ai eu beaucoup de freins à cause de ma maternité, de freins dans ma carrière. Dans un instant, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC. On se retrouve juste après cette courte pause. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h33, vous êtes sur RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui Rémi Barré, Thierry Moreau, Loumière Lapré et Fred Hermel. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des GG ce matin sur RMC. La sécurité de nos élèves vous inquiète-t-elle? Hier, des lycéens et des parents d'élèves ont reçu sur leur espace numérique de travail un message comprenant des menaces de mort ainsi qu'une vidéo de décapitation. L'auteur promet également de faire exploser leur établissement scolaire pour servir Allah le Tout-Puissant. Un message qu'a également reçu la coach de vie, Joëlle Dagosséry, dont la fille est lycéenne. Elle témoignait tout à l'heure chez les GG.
En fait, moi, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu ce matin. Et donc, je suis allée aussi sur l'UNT. Effectivement, j'avais reçu un mail avec Assalam alaikum, nous venons de la part de l'État islamique. Je suis enfin décidée de mener mon projet à bout. Enfin, voilà. On est plusieurs parents à avoir décidé de garder nos enfants. Je ne sais pas si tous les parents l'ont fait. Mais l'école a maintenu les cours. Ça fait un moment qu'on est un peu sous surveillance, en fait, depuis le 7 octobre. Mais jusqu'ici, on avait toujours envoyé les enfants à l'école. Mais là, sur le coup... Non, enfin, moi je ne me vois pas, je ne l'emmènerai pas. Et puis si demain on ne m'assure pas qu'il y a des conditions de sécurité, ce sera pareil, quoi.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la sécurité des élèves en France aujourd'hui, Loumière Lapré?
Alors, moi, ce qui m'interroge sur ce sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire les élèves en sécurité? Moi, je pense que, en effet, la police doit faire son travail et je pense qu'elle le fait et qu'elle s'y attelle aujourd'hui de trouver l'origine de ce message, parce que ça peut être un canular, ça peut être ça peut. Ça peut être des menaces en l'air. On n'est pas
des décapitations.
Oui, mais tu sais, c'est de genre de choses qui circulent sur Internet. Hein. Enfin, c'est vraiment très grave, hein, ce qu'on peut trouver sur le dark web notamment. Et donc, moi, là où je trouve que cette pente est glissante, c'est typiquement, je dis ça parce que c'est un débat qui a beaucoup eu aux États-Unis. Après des tueries qui sont récurrentes dans les écoles aux États-Unis, on a dit il faut mettre de la police, il faut armer les gens.
Ils sont pas prévenus, ces tueries. Mais le tueur ne dit pas, n'envoie pas un message. Mais surtout, sur tous les messages des parents d'élèves.
Ça ne résout rien d'avoir des policiers qui sont armés à l'entrée des écoles. Au contraire, ça crée...
Si t'as un mec qui dit je vais tous vous décapiter, je pense que...
Non, Je te dis pas qu'il faut pas là maintenant tout de suite, le temps qu'on identifie qui est responsable de tout ça, que le coupable soit identifié et condamné. que ça ne doit pas être une mesure exceptionnelle mise en place. Je te dis pas ça. Je te dis juste que je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on traite l'école, parce que l'école, c'est un sanctuaire aujourd'hui où des élèves de tous les milieux, de toutes les catégories sociales, de partout viennent apprendre. Et que l'école est aussi un lieu qui est instrumentalisé aujourd'hui pour servir des visées politiques. Et donc moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment laisser la police faire son travail. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, avec le développement des hackers la capacité de plus en plus nombreuse des réseaux souterrains à hacker le système technologique de l'État, c'est des choses qui vont se reproduire. Et ça, c'est vraiment grave.
Et si aujourd'hui, tes parents d'un gamin et qui a reçu ce message, t'as très envie qu'il y ait deux, trois policiers en face.
Ça n'est pas la solution. Il faut qu'on arrive à identifier comment on solutionne.
Alors, depuis que ce message a été diffusé, il semble que ça soit une plaisanterie de très mauvais goût, bien évidemment, mais une plaisanterie.
Ils ont avancé déjà sur l'enquête.
Ils sont en train de remonter pour trouver le message primaire et ils vont y arriver parce qu'on a de très très bons policiers en ce domaine. Il y a eu des messages pour rassurer les gens qui ont été envoyés par les mêmes canaux aux gens qui avaient reçu premier message. Deux, me semble-t-il, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais effectivement, symboliquement, s'il y a quelques policiers devant là, pour le coup, on est sur un vrai problème de ressenti. Même si tu sais que tu reçois ce message, même si on te dit trois fois que c'est une blague, que tout va bien, que c'est géré, que t'es quand même secoué. Donc, symboliquement, s'il y a quelques policiers à l'entrée pendant quelques jours pour rassurer sur le fait que justement c'était une simple plaisanterie, qu'on court après celui qui l'a faite et que il y a eu des démineurs qui ont été, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Voilà. Mais symboliquement, je pense que c'est important qu'on montre aux parents que, on s'occupe de ça. Bien sûr.
Mais surtout, alors, si c'est un canular, tant mieux. Dominique Bernard.
Ça peut ne pas en être.
Aujourd'hui, l'islamisme, le terrorisme islamiste menace notre école.
Bien sûr.
C'est une réalité. Donc c'est normal qu'on ait peur.
Il y a eu, effectivement, Fred.
Nos écoles ont été attaquées.
Non mais bien sûr, elles ont été attaquées. Il y a Dominique Bernard, il y a eu Samuel Paty, évidemment, mais tu peux pas dire qu'aujourd'hui toutes les écoles sont menacées par le terrorisme islamiste.
Est-ce que j'ai employé
Nos écoles, l'école est une cible, bien sûr.
J'ai dit notre école.
J'ai dit notre école.
Je veux dire, si c'était rien passé avant, on dirait oui, bon, c'est un canular, etc. Mais un canular qui tombe après des décapitations et des meurtres dans l'école, automatiquement, c'est normal que ça fasse peur aux parents.
Mais c'est pour ça.
Et automatiquement, t'es obligé de prendre ça au sérieux, puisqu'il y a déjà eu des meurtres, des attentats aux écoles.
Je crois que c'est pris au sérieux. Mais du coup, c'est là que moi, je pense que c'est important de raison garder aussi face à ces. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe si ce genre de canular fonctionne et qu'on pète un câble à chaque fois? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y en avoir toutes les 5 minutes.
C'est exactement ce qui se passe. Imagine, je dis n'importe quoi. Effectivement, c'est le 8e canular. Et cette fois-ci, tu dis, oh, c'est pas grave, ça doit être une mauvaise blague. Et il se passe quelque chose.
Bien sûr, tu es obligé de les prendre au sérieux.
Et quand t'es parent, je peux te dire, ça doit pas te faire rien.
Et la solution, c'est ce que font d'ailleurs les forces de l'ordre, c'est vertueux. Enfin, c'est les forces de l'ordre, c'est remonter.
Exactement. Exactement.
Quand on identifie ce type de personnage, les taper très fort.
Bien sûr. Mais c'est là que ça, c'est plus. Moi, je trouve ça plus rassurant de savoir que la police aujourd'hui fait ce travail de remontée d'informations.
Mais très régulièrement, ceux qui font ce genre de canular sont rattrapés.
Bien sûr, et heureusement. Mais plutôt que de mettre une présence policière devant. Je te dis pas que pour le sentiment d'insécurité, ça fait pas quelque chose. Oui. Mais moi, ça me rassure quand même de savoir qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, sont des cracks pour remonter ce genre de canular et punir.
Moi, les deux me rassurent. Encore une fois, je te dis, je pense que les parents de ces enfants qui ont reçu ces messages, je pense qu'ils étaient bien contents de voir des policiers ce matin devant l'établissement de leurs enfants. Apolline Matin, ce matin sur RMC. Espérez-vous encore une baisse des prix dans l'alimentation? Alors que Bruno Le Maire et certains patrons de supermarchés nous ont dit que l'inflation était derrière nous, force est de constater que les prix en rayon n'ont pas ou très peu baissé et les consommateurs sont désormais résignés, comme l'ont constaté nos reporters à la sortie d'un hypermarché francilien.
Non, on n'a pas de baisse.
Tout a vraiment augmenté. La baisse des prix, je ne le vois pas dans mon caddie. Sous le lait, j'ai vu qu'il y avait 2-3 centimes en plus. De 1 euro, c'est 1,9 euro.
Un caddie, c'est 150 ou 200 euros. J'aurais dit facilement 100 ou 120 avant.
On n'a pas trop le choix en fait. Il faut bien se nourrir, donc c'est un peu comme le carburant. C'est pas le choix de mettre le carburant dans la voiture.
Est-ce que vous espérez encore une baisse des prix, Thierry Moreau? Vous dites, bon, bah, on ne retrouvera jamais avant. Voilà, il faut s'y résigner.
Jamais un retour au prix qu'on a connu il y a quelques années. L'inflation,
il y a 12 ans.
L'inflation va baisser, c'est-à-dire que ça augmentera moins vite, mais ça continuera d'augmenter. Je pense que tous les économistes sont d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'on a affaire à, d'un côté, le ressenti des gens qui font leurs courses tous les jours, qui est plus qu'un ressenti, parce qu'ils regardent leur courrier, ils regardent leur carte bancaire, et des pouvoirs publics qui nous disent « Ah mais non, c'est maîtrisé, on est à 2%, 1%. » Et ça ne parle pas aux gens, ça.
Et on est à 2%, dites... c'est-à-dire que ça monte encore de 2%.
Mais bien sûr, et si vous dites aux gens « on est passé de 5,5% à 2%, c'est tellement abstrait. Quand ils voient que leur paquet de pâtes a doublé ou que certains produits ont triplé, voire quadruplé, eh ben le ressenti et la facture de la carte bleue montrent que les moyennes ne servent à rien, parce qu'en plus les moyennes c'est sur l'ensemble des produits alimentaires, voire l'ensemble des prix, et donc ça ne signifie rien. Donc c'est un combat perdu d'avance.
En fait, le 2%, c'est plus que 2%. Parce que c'est sur 2% sur un produit qui a déjà pris 7% avant. Donc c'est, voilà.
C'est 2% sur l'année, hein, souvent.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais sauf que les produits ont augmenté. Si tu prends,
ça ne baissera pas.
Ça baissera pas.
Tu vois ce que je veux dire? Sauf si.
À partir du moment où la base, elle a grandi, le pourcentage, il est sur une base qui a grandi. Donc, automatiquement, non, moi je suis d'accord avec Thierry. On peut espérer que ça n'augmente un peu moins fort, mais voilà, là on est dans un,
ou alors il faut que les salaires suivent.
Bah voilà, parce qu'on oublie quand même que il y a des gens qui sont censés être aux manettes et qui nous disent non mais ça serait bien que on va faire essayer. Mais en fait vous êtes aux manettes, donc faites quelque chose, et il faut arrêter de nous faire croire qu'on ne peut rien faire.
Oui, mais ça fera pas,
ça s'engadre. On peut augmenter les salaires par exemple. Oui, mais les gens qui sont aux manettes, les gens qui sont aux manettes semblent oublier qu'ils ont à leur disposition un blocage des prix par exemple. Mais si, pourquoi vous dites que c'est pas possible? Ça a été fait. L'Espagne l'a fait. L'Espagne l'a fait il y a quelques mois. L'Espagne l'a fait il y a quelques mois. Bah, arrête de dire non, c'est littéralement la vérité. Et l'Espagne a bloqué ses prix sur des produits de première nécessité il y a quelques mois.
Mais voilà. C'est ce qu'on a essayé de faire. Ça a été un flop.
Mais non, on n'a pas vraiment.
On a fait le panier.
On n'a pas vraiment essayé de le faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce gouvernement nous fait croire qu'il a essayé de faire quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'ils s'en foutent, parce que les gens qui sont au gouvernement, ils vivent pas avec le SMIC et ils sont pas à faire leur prix et qu'ils ne veulent pas toucher à leur sacro-sainte marché libre et à leur néolibéralisme. Si, ils s'en foutent, parce que regarde, ils s'en foutent, parce que quand ils nous disent on a les pieds et les poings liés, et on en parlera jusqu'après, on voudrait faire quelque chose mais on n'augmentera pas les impôts, et ben moi je te dis qu'ils s'en foutent, parce que l'argent il est là et on peut aller le chercher. Il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, parce que il y a des, mais 80 milliards d'évasion fiscale, ça suffira pas.
D'accord.
Voilà.
Déjà, tu dis 80 milliards, en fait, t'en sais rien.
C'est de 80 à 100.
Personne n'en sait rien, c'est entre 15 et 80 milliards.
Non, milliards, c'est ce qui est effectivement récupéré tous les ans.
Merci. Et personne ne sait.
La totalité des économistes,
aujourd'hui, tous les chiffres sont d'accord pour dire entre
30 et 100, 15 et 80.
Personne ne sait. Déjà, 15 milliards, c'est aujourd'hui ce qu'on peut rattraper. Donc, en fait, eux, ils sont là. Et par ailleurs,
sur les dépenses sociales, parce qu'on est les champions d'Europe et du monde
sociales. Coupons les dépenses pour les pauvres, mais laissons les milliardaires planquer leurs thunes au Panama.
Ça
n'est pas mon modèle de société.
Bien sûr.
Peut-être que c'est le tien.
Mais
tu as le droit. C'est définitivement celui du gouvernement.
Tu n'as pas qu'une seule piste.
C'est définitivement celui du gouvernement. Moi, je dis, il faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y a pas d'autres solutions. Des solutions, il y en a. Et l'argent, on sait où aller le trouver si on a envie d'aller le faire. Non, ça n'est pas populiste. Ça n'est pas. Pourquoi c'est populiste?
Mais parce que tu ne peux pas avoir que ça.
Pourquoi? Vas-y.
Dans les doigts en disant. On va aller taper les riches, que ça va arriver.
Ah, mais bien évidemment, ça n'est pas en claquant dans les doigts, c'est en mettant en place une police qui fait effectivement son travail.
Elle a fait son travail.
Mais alors, elle a été largement sous-financée depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir.
Ça tombait, il veut remettre des fonctionnaires
pourtant,
dedans.
Pourtant, le tribunal spécialisé sur l'évasion fiscale, c'est la plus grande invention que la France ait donnée juridiquement au monde. On est un modèle. Et depuis qu'on est sous Emmanuel Macron, c'est largement sous-financé.
Mais là,
donc, en fait, ça, c'est un choix politique.
Alors, il se trouve que tu peux dire ce que tu veux, mais c'est peut-être sous-financé, mais toujours est-il que c'est un record en 2023.
C'est
donc
plus
bon,
efficace.
C'est en tout cas plus efficace. Mais et ensuite,
si on se tapait ça beaucoup mieux, on récupérerait bien plus
ensuite,
d'argent.
Et ensuite, d'autres agents vont être embauchés, on en parlera dans un instant. Donc,
on a hâte.
Là pour le coup, ça, c'est. On peut s'enorgueillir d'avoir enfin un truc qui marche plutôt bien dans ce pays. Donc, Apolline Matin, ce matin, sur RMC, êtes-vous adepte de la procrastination? C'est cet art, bien, vous le savez, de ne rien faire et de tout reporter au lendemain. Mais ça ne doit pas vous culpabiliser si vous êtes un adepte, car il semblerait que même les chefs d'entreprise sont adeptes justement de la procrastination. C'est ce que nous révélait ce matin Charles Magnan.
L'Institut IFOP qui publie ce matin un sondage qui va vous faire du bien, qui va vous déculpabiliser si vous aussi vous avez souvent tendance à avoir la flemme. On y apprend que 9 patrons sur 10 avouent procrastiner au travail. L'IFOP a interrogé des grands dirigeants, des managers qui reconnaissent quasiment tous qu'ils ont tendance à remettre à plus tard certaines tâches, en particulier les tâches administratives, la paperasse. En fait, les patrons sont des Français.
C'est rare qu'on remette à plus tard les tâches sympas.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire les patrons sont des Français comme les autres. En fait, quand on interroge les salariés au global, les 3/4 reconnaissent procrastiner au moins une heure par jour sur leur lieu de travail.
Ouais. Je suis anti-procrastination. Et vous êtes de ce genre-là,
complètement. Je suis meilleur sur la dernière ligne droite au moment où il y a la deadline, où il faut rentrer un truc le lendemain matin et l'envoyer avant minuit. Je suis plus efficace. Alors, je ne parle pas du paiement des factures, c'est un autre sujet, parce que là, c'est on parle dans la phobie administrative qu'un ministre avait inventée, mais je parle sur le travail ou sur les choses à faire. Pour faire avancer quelque chose, je suis plus efficace, par exemple dans la réflexion sur une note, etc., si je fais ça en dernière ligne droite et en urgence.
Allez, dans un instant, RMC s'engage avec vous. On va tenter d'aider Victoria. Victoria, c'est une jeune femme épileptique qui lutte pour obtenir ses indemnités. Et puis, à 14h, on parlera, justement, de la lutte contre la fraude fiscale et sociale qui atteint des records en 2023. Est-ce que vous seriez prêt pour aider l'État à dénoncer votre voisin? Vous savez, la petite piscine cachée, la véranda, l'abri de jardin. Et vous verrez qu'on peut même être rémunéré quand on dénonce au fisc. Voilà, on vous dira tout ça dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et c'est l'heure de vous aider. Il est 13h52 avec Amélie Rosic. RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et Amélie, aujourd'hui, c'est Victoria qui a besoin de vous et qui vous a appelé à l'aide sur l'adresse rmcavecvous@rmc.fr.
Oui, cette jeune femme de 28 ans souffre d'épilepsie depuis sa naissance. C'est une malformation cérébrale qui n'est pas opérable. Elle suit un traitement à vie, mais il ne règle pas tout, malheureusement. Victoria fait des crises de convulsions plusieurs fois par an. Très douloureuse, écoutez.
J'ai aucun souvenir de ce qui m'arrive, je m'évanouis. Généralement, je suis hospitalisée. Dès que je sors de l'hôpital, on me propose d'être en arrêt pour pouvoir me reposer. J'ai tellement de problèmes administratifs que du coup, je m'oblige à ne pas être en arrêt.
Voilà, donc elle explique quand même qu'elle a tellement de problèmes administratifs qu'elle s'oblige à ne pas être en arrêt. Ces problèmes administratifs, ils concernent l'assurance maladie. Son épilepsie sévère, elle fait partie des 30 maladies reconnues en affection longue durée.
C'est la fameuse ALD.
Exactement. Et pourtant, chaque fois que Victoria est hospitalisée ou en arrêt de travail, elle perd 3 jours d'indemnité.
Normalement, si je suis en arrêt une première fois, donc j'ai 3 jours de carence qui s'appliquent, et ensuite, pendant 3 ans, toute hospitalisation ou arrêt de travail lié à mon affection longue durée, j'ai plus de jours de carence. Je perçois pas ce que je devrais percevoir, donc c'est un peu une double peine.
La jeune femme est autonome, elle vit seule en Seine-Saint-Denis avec un petit boîtier d'urgence qui lui permet d'appeler ses proches quand elle fait une crise, c'est automatique, elle appuie dessus. Elle est reconnue travailleuse handicapée et je vais le dire très franchement, c'est une jeune femme très courageuse. Elle est hôtesse d'accueil à temps partiel, elle touche 1080 euros par mois plus 560 euros d'allocation adulte handicapé. Elle compte le moindre centime pour vivre et aujourd'hui il lui manque 130 euros d'indemnité pour 2 arrêts de travail au mois de janvier et au mois d'août dernier.
Et Amélie, évidemment, elle a témoigné, bien sûr, et c'était déchirant, c'était bouleversant, et elle vous a appelé à l'aide parce que elle aimerait récupérer, bien sûr, les indemnités qu'on lui doit, en fait.
Évidemment, et elle a tenté à de multiples reprises, ça n'a pas fonctionné. Notre reporter Marilyn Ottman a contacté l'assurance maladie. On nous dit qu'aucune information n'est à nous communiquer sur les raisons de ces aléas administratifs. Mais très sincèrement, sur ce dossier-là, j'ai envie de dire tant pis, l'essentiel est là, puisque le dossier de l'assuré a été régularisé, nous dit-on, très peu de temps après nos sollicitations. Un virement de 130 euros est parti sur le compte de Victoria hier. Et puis surtout, elle a l'assurance qu'elle sera tranquille à l'avenir. Et je peux vous garantir qu'on l'a eu au téléphone hier soir et qu'elle était sacrément soulagée avec des gens courageux comme ça, qui travaillent dans ces conditions et qui essayent de mener leur vie comme ils peuvent et qui ne sont pas aidés, on est ravis de réussir à les aider.
Bravo Amélie, bravo, parce que c'est vraiment le cas de Victoria qui nous tenait beaucoup, beaucoup à cœur. Donc on est ravis d'avoir résolu en tout cas ce problème. Et si vous aussi voulez être aidé par Amélie et toutes ses équipes qui arrivent à résoudre quand même 99,99%, on a fait nos calculs depuis 3 ans, des cas qu'on leur soumet, vous n'hésitez pas, RMC avec vous. @rmc.fr. Amélie. Alors, attendez, j'aurais une question très importante à vous poser après. Mais d'abord, la Ligue des Champions, ça passe avant tout.
Mais je comprends.
C'est l'alerte. Vous avez désormais 5 minutes top chrono pour vous inscrire et pour vivre l'expérience RMC au Parc des Princes. Gagnez vos places pour le quart de finale de la Ligue des Champions PSG FC Barcelone. 5 minutes donc pour envoyer PSG par SMS au 7-32-16. PSG par SMS au 7-32-16.
Alors, dans un instant, on va voir un sujet épineux, pour le coup. Dans Estelle Midi, on va parler de la lutte contre la fraude fiscale et sociale qui atteint des records en 2023. Est-ce que vous seriez prêt à aider l'État en dénonçant vos voisins? Vous savez, quand vos voisins, ils ont une piscine, une véranda, un abri de jardin. Vous, par exemple, Amélie, je suis sûre que c'est oui. Déjà, je vous vois hésiter, donc c'est oui.
Bah oui, non, j'hésite. Sincèrement, c'est difficile d'avoir un avis très tranché. C'est-à-dire que d'un point de vue philosophique et sociétal, le principe même de la dénonciation du voisin, franchement, c'est pas possible.
Je comprends.
Quels que soient les faits, en fait. Après, évidemment que c'est tentant, parce que de toute façon, à partir du moment où il y a de l'argent, c'est tentant.
C'est ça. Ton voisin, s'il est riche, tu dénonces.
Bah voilà.
Et si c'est un petit cabanon pour une personne qui a pas beaucoup d'argent, tu dénonces pas.
Voilà. Mais sincèrement. Ça me coûtera. Il faudra vraiment que je me morde la lèvre. Alors c'est encore pire. Il faudra que je me morde la lèvre. J'aurais envie de le dénoncer, mais sincèrement, je te jure, je le ferai pas.
Eh bien, écoutez, on va vous poser la question dans un instant, dans Estelle Midi, est-ce que vous seriez prêt à dénoncer votre voisin?
Tant pis pour l'argent.
Quelque chose à l'administration fiscale. Eh bien, dites-nous, par exemple, si vous seriez prêt à dénoncer votre voisin ou si vous avez été dénoncé, bien sûr, 3216 et l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.